sur l'actualité.
33 9 693 693 70. Nathalie Hamard.
Soyez les bienvenus dans cette émission. Dans 30 minutes, vous aurez la parole à propos de la Côte d'Ivoire où Alassane Ouattara promet de se prononcer très prochainement dans une adresse à la nation sur sa candidature à la présidentielle d'octobre. Le chef de l'État, donc, n'exclut pas à 78 ans de briguer ce troisième mandat auquel il avait renoncé avant la mort du candidat désigné du RHDP, son premier ministre, Amadou Gon-Coulibaly. Au même moment, Henri Conan Bédier, 86 ans, s'apprête à mener campagne pour le PDCI. Il fait état d'une alliance avec un autre ancien président, Laurent Gbagbo. Ouattara, Bédié, Gbagbo, c'était le trio de tête du premier tour de la présidentielle en 2010. Alors pourquoi les partis politiques ivoiriens ont-ils du mal à faire émerger la relève? Où est la jeune garde? Vous nous appelez 33 9 693 693 70. Mais d'abord, comme chaque matin, vous dialoguez avec la rédaction. Bonjour Ernest.
Bonjour Nathalie.
Merci
d'être bonjour à tous les auditeurs de la Radio du Monde.
Merci d'être avec nous Ernest. Vous nous écoutez à Paris sur 89 FM. Votre question porte sur le Brésil, sur une plainte qui vise le président Bolsonaro. On vous écoute.
Effectivement, un syndicat de personnel soignant brésilien, deuxième pays le plus touché au monde par le Covid-19, a porté plainte à la CPI contre le président Jair Bolsonaro pour crime contre l'humanité. Qu'on reproche exactement les soignants à Jair Bolsonaro dans sa gestion de la crise? Ont-ils le droit de servir la CPI de cette façon? Et cette dernière peut-elle effectivement se prononcer sur cette affaire?
Alors, ça fait effectivement trois questions en une. Ernest, et pour vous répondre ce matin, Elcio Ramalho de la rédaction brésilienne d'RFI. Bonjour Elcio.
Bonjour.
Jair Bolsonaro, à peine remis du Covid-19, qui affiche déjà son mépris pour les gestes barrières, alors que la situation sur le front du Covid est encore très mauvaise. On a franchi encore le cap des 90 000 morts ces dernières heures.
Exactement. Donc actuellement, au Brésil, 2,5 millions de personnes sont infectées par le coronavirus. Le nombre de morts, comme tu as dit, dépasse 90 000 personnes. Donc hier, le Brésil a battu un record, 1595 morts en 24 heures. Donc ces chiffres font du Brésil le deuxième pays le plus touché par la pandémie derrière les États-Unis. Donc plusieurs entités et syndicats, une coalition de syndicats qui disent représenter justement 1 million de professionnels de santé, ont saisi la Cour pénale internationale contre les chefs de l'État. Ils demandent donc une enquête sur sa gestion de la crise qu'ils considèrent un crime contre l'humanité et un génocide. Donc sa réponse au coronavirus est considérée irresponsable. Il provoque la mort des milliers de Brésiliens. Donc les professionnels reprochent les chefs de l'État de nier depuis le début de la pandémie, qu'il a qualifié de grippette, on va se rappeler. Bolsonaro non seulement n'a pas respecté les consignes de distanciation sociale, comme il a circulé sans masque, il a même participé à des manifestations, s'est mêlé à la foule, il a porté les enfants sur les bras, donc il a provoqué des agglomérations. Et les professionnels reprochent aussi à Bolsonaro, d'ailleurs testé 2 fois positif à la Covid, de défendre et faire aussi la publicité de l'hydroxychloroquine, malgré l'incertitude sur l'efficacité de ces médicaments. Donc, dans cette plainte, les professionnels de santé rappellent que pendant cette crise, des ministres de santé, tous les deux médecins, ont quitté le gouvernement. Bolsonaro, le président a nommé un militaire sans expérience par intérim pour commander la lutte contre le coronavirus. Donc le document qui fait 64 pages estime que Bolsonaro, avec ses actions, a contribué à propager l'épidémie, a mis sous tension les systèmes de santé et expose les professionnels de santé ainsi que les populations les plus vulnérables comme les indigènes par exemple au virus, et pour cela il doit être responsabilisé.
Alors effectivement, donc une plainte en irresponsabilité contre Jair Bolsonaro devant la CPI. Elcio, est-ce que ces syndicats ont le droit de saisir la Cour et peut-elle se prononcer, a-t-elle la légitimité à se prononcer sur cette affaire?
Donc les professionnels de santé, donc ils ont saisi la procureure, donc le dossier a été envoyé, adressé à la procureure générale, Fatou Bensouda. Elle peut ou non décider de donner suite à cette plainte, de demander une investigation et donc la soumettre au juge. C'est une décision qui peut prendre plusieurs mois. On va rappeler que la Cour pénale internationale reçoit, la procureure reçoit presque 800 plaintes par an, donc ça sera très difficile de donner suite. Mais pour les professionnels de santé, il ne s'agit pas simplement de faire pression politique. C'est une décision difficile, ils ont dit, mais c'est important justement et c'est symbolique pour responsabiliser Bolsonaro qui doit répondre pour cette gestion de la crise. Mais je vous rappelle, Nathalie, que ce n'est pas la première fois que Bolsonaro est la cible d'une plainte au tribunal. En avril, l'Association des juristes pour la démocratie a envoyé, a déposé une plainte pour l'attitude de Bolsonaro qu'il considère irresponsable et expose la vie des citoyens brésiliens au coronavirus.
Voilà, le Brésil, donc plus de 90 000 morts recensés et une décision de réouverture, réouverture des frontières aériennes du pays qui peut effectivement surprendre dans ce contexte. Merci à vous, Elcio. Ernest, a-t-on répondu à vos questions ?
Oui, très bien, Nathalie. Merci à vous et merci à votre formidable équipe.
C'est gentil. Merci. Bonne journée à vous, merci. À Paris. Une question à présent à propos de la nomination en France de notre consoeur Claire Hédon comme nouvelle défenseur des droits. Claire Hédon qui a pris la succession de Jacques Toubon pour un mandat de 6 ans. Bonjour, Marius.
Bonjour Nathalie, bonjour à toute l'équipe de RFI.
Bienvenue dans cette émission, vous nous appelez de Lomé et c'est Sylvie Coffi du Service France d'RFI qui va vous répondre. Bonjour Sylvie.
Bonjour.
Marius, quelle est votre première question ?
Effectivement, ma première question, c'est la journaliste Claire Hédon a pris la semaine dernière sa nouvelle fonction de défenseur des droits après avoir été nommée par le président français Emmanuel Macron. Ma première question, quels sont les domaines d'action du défenseur des droits ?
Alors, au total, il y a 5 domaines de compétences qui sont déterminés par la loi. Alors, la défense des droits des usagers des services publics. L'usager, c'est vous et moi, par exemple. J'ai un problème avec un service de l'État, ça peut être un établissement scolaire, le rectorat, ou un organisme privé chargé d'une mission de service public, la caisse d'allocation familiale, par exemple. Autre mission, la lutte contre les discriminations et la promotion de l'égalité, les droits de l'enfant, le respect de la déontologie par les professionnels de la sécurité, c'est-à-dire la police, la gendarmerie, les services privés de sécurité.
Et ça, c'est un débat très actuel, Sylvie. Oui.
Tout à fait. Et l'orientation et la protection des lanceurs d'alerte.
Alors, Sylvie, lorsqu'on saisit la défenseur des droits, comment concrètement est-ce que ça se passe ?
Alors, la défenseur des droits n'est pas seule. Elle s'appuie sur un réseau de 500 délégués qui sont présents sur l'ensemble du territoire et votre dossier est transmis à des juristes spécialisés. Première étape, la défenseur des droits va mener des enquêtes sur les demandes qui lui sont adressées. La procédure d'enquête se déroule toujours en confrontant les points de vue à la fois du réclamant, c'est-à-dire la personne qui fait une réclamation, et de la personne mise en cause, celle visée par la réclamation. C'est ce qu'on appelle en droit le principe du contradictoire.
Sauf que les personnes mises en cause peuvent refuser de communiquer des informations au défenseur des droits ?
Tout à fait. Par exemple, la mairie ou la préfecture, si elle refuse de communiquer une information, la défenseur des droits peut adresser des mises en demeure. Elle peut saisir le juge des référés ou encore invoquer le délit d'entrave. Donc, Nathalie en a parlé d'enquête. Ça peut être aussi des tests en situation. Par exemple, pour prouver un comportement discriminatoire, le test en situation va permettre de comparer l'attitude de la personne testée envers un candidat de référence d'une part et un candidat qui pourrait être discriminé d'autre part à cause, par exemple, de la couleur de sa peau ou des personnes en situation de handicap. Le test en situation, par exemple, consiste à soumettre 2 fausses candidatures pour le même emploi.
Que se passe-t-il, Sylvie, si après enquête, le ou la défenseur des droits, en l'occurrence, considère qu'il y a eu discrimination volontaire qui relève du code pénal, elle n'a pas de pouvoir direct de sanction ?
Pas de sanction directe, en effet, mais elle peut demander à l'autorité qui en a le pouvoir que des sanctions disciplinaires soient prises contre le professionnel qui a commis une faute. Revenons sur le cas de discrimination avérée. La défenseur des droits peut proposer une transaction pénale qui peut prévoir une amende ou un dédommagement pour la victime. En cas de refus ou de règlement amiable, la défenseur des droits peut déclencher une poursuite en justice.
Alors Sylvie, on l'a vu avec le mandat précédent, hein, celui de l'ancien ministre de la Justice, Jacques Toubon, le défenseur des droits publie régulièrement des rapports, formule des recommandations. La question c'est, est-ce que c'est suivi d'effet vraiment ?
Alors c'est très compliqué, donc la défenseur des droits dispose d'un droit de suite sur les recommandations prononcées, elle peut exercer un pouvoir d'injonction, et si au final rien ne marche, la défenseur des droits peut décider de rendre public un rapport spécial où le nom de la personne ou de la structure mise en cause sera dévoilée.
Marius, je crois qu'on a répondu sur l'action concrète du défenseur des droits, sur les limites aussi de ses pouvoirs. Vous aviez, je crois, une dernière question pour Sylvie Coffi.
Effectivement, ma dernière question est de savoir, a-t-il des liens avec des défenseurs de droits en Afrique ?
Oui, des liens, mais elle ne peut pas intervenir directement sur des dossiers à l'international, sur les questions de droits humains, car elle reste une institution nationale. On sait qu'elle est nommée pour un mandat de 6 ans.
Merci Sylvie Coffi. Marius, a-t-on répondu à vos interrogations ?
Parfaitement, comme toujours.
Eh bien, continuez de nous écouter, continuez de nous envoyer vos questions. 339 693 693 70, la page Facebook, le WhatsApp de l'émission, ce ne sont pas les moyens qui manquent. Alors, c'est la magie de cette émission, c'est de vous mettre en contact avec la rédaction ou que vous nous écoutiez dans le monde. Par exemple, tirer une ligne directe entre Brazzaville et la Chine. Bonjour Fred.
Bonjour Nathalie.
Vous nous appelez de la capitale congolaise. Vous avez une question pour notre correspondant en Asie, Stéphane Lagarde. Bonjour.
Bonjour.
Alors on écoute la question de Fred.
La Chine a lancé jeudi dernier une sonde en direction de la planète Mars pour la première fois de son histoire. Alors, comment a été accueilli ce lancement en Chine ? Quelles seront les missions de cette sonde une fois arrivée sur Mars ?
Alors c'est vrai, hein, Fred, qu'on assiste ces temps-ci à une véritable course vers la planète rouge, les États-Unis bien sûr, mais aussi tout récemment les Émirats Arabes Unis avec leur sonde Hope, première mission interplanétaire jamais menée par un État arabe, hein, pour collecter des données sur le climat, sur l'atmosphère de Mars. À chaque fois, évidemment, c'est une grande fierté. Hein, il y a pas mal de publicité autour. Stéphane Lagarde, on imagine que ça a été le cas aussi pour cette sonde chinoise.
Oui, bah pareil, énorme enthousiasme, effectivement, depuis le pâtir de Wenchang, donc sur l'île province de Renan, c'est tout au sud de la Chine. On a entendu des cris de joie, hein, des gens qui filmaient le départ de loin, évidemment, mais quand le nez de la fusée à longue marche 5 a crevé les premiers nuages, on a entendu comme ça des O, des A, un peu comme un feu d'artifice. Donc, et puis un enthousiasme partagé, surtout dans toute la Chine, où les Chinois ont pu suivre le décollage sur leur téléphone portable. Et puis sur Internet, moins d'une heure après le lancement des moteurs de recherche, ils ont surchauffé, hein, j'allais dire, hein, presque autant que les moteurs de la fusée, ces moteurs de recherche, puisque les demandes de recherche sur les deux caractères Tianwen, hein, donc c'est le nom de cette mission spatiale vers la planète rouge, les recherches ont bondi de 1560%, Fred, de nombreux internautes voulant être tout simplement associés à cette aventure qui est un défi technologique, scientifique, hein, comme pour les autres, hein, comme pour les missions arabes aux États-Unis, mais aussi politique. C'est une mission très difficile, c'est la deuxième fois que la Chine tente d'aller sur Mars, hein, la première fois c'était avec les Russes, ça n'avait pas marché, et cette fois toute la Chine est toute seule, et donc elle veut montrer au monde, Fred, sa puissance technologique, ce qui a entraîné une avalanche d'encouragement et de commentaires des patriotes, j'allais dire, hein, sur les réseaux sociaux avec des « Allez la Chine, Tiaio » ou encore « Vive le Parti communiste chinois ».
Alors oui, les patriotes sur les réseaux sociaux et puis enthousiasme plus ou moins téléguidé des médias chinois, Stéphane, on imagine aussi.
Oui, avec de nombreux dossiers et puis des explications sur le nom. Hein. Par exemple, vous savez, Fred, peut-être que Tianwen, Tian, il y a deux caractères, donc Tian le ciel, Wen question au ciel. Ça vient d'un poème antique de la Chine, je ne vais pas vous refaire tout le poème, mais bon, on en a eu beaucoup. Et puis, on a également eu tout ce que contient la sonde. Alors, il y a un orbiteur, il y a un atterrisseur, on a vu des photos d'un atterrisseur qui va poser le robot, on va en parler. Donc, une sorte de soucoupe qui est chargée de poser en douceur ce rover. On l'a vu partout dans les journaux. Je vous parlais de fierté, d'honneur. Pour le quotidien du peuple, cette mission ne reflète rien de moins que la détermination, je cite, et la persévérance du peuple à aller plus loin dans l'espace. Donc une conquête de Mars à laquelle est associé tout le pays finalement, avec pour le robot un concours qui vient d'être lancé. Hein. Si vous voulez participer, Nathalie ou Fred, vous pouvez y aller. Les internautes ont jusqu'à le 12 août prochain, c'est ouvert à tout le monde, pour nommer ce robot sur le moteur de recherche Baidu. Il y a beaucoup de suggestions déjà, avec le caractère feu notamment, parce que ben, en chinois, Mars se dit Roaching, j'espère que je prononce bien Roaching, donc qui veut dire la planète de feu.
Stéphane, au-delà de la fierté légitime, que sait-on de la mission de cette sonde, son objectif scientifique, quel est-il ?
Alors, bon, d'abord, il va falloir se poser. Hein. Il faut 7 mois, ça arrivera en février prochain. Ça va être très dur de se poser. C'est le plus difficile. Il faudra 7 à 8 minutes et on va regarder ça parce que c'est pas encore joué. Une fois que ça sera posé, là, la mission va commencer. 90 jours, 3 mois, moins 60 degrés. Le robot qui n'a pas encore de nom va devoir étudier la surface de la planète rouge, les minéraux, les glaces des eaux martiennes, son atmosphère. Il va faire attention aussi à ses panneaux solaires, qu'il n'y ait pas trop de poussière pour qu'il puisse continuer à rouler. Et puis, il va également étudier les champs magnétiques de Mars. Donc, une mission de 90 jours, ou encore une fois, il faut d'abord se poser, et puis après, ce sera 3 mois, on verra tout ça, il y aura des images également.
Merci Stéphane Lagarde d'avoir été avec nous ce matin, et merci à Fred pour cette question donc sur le lancement d'une sonde chinoise en direction de Mars. Bonne journée à vous. À Brazzaville, on va traverser le fleuve en direction Kinshasa. Bonjour Eddy Divin.
Bonjour Nathalie Amar, bonjour à tous les autorités de la RFI.
Alors vous vous intéressez au cours de l'or, on vous écoute.
Oui, on a pu entendre sur votre antenne, le coût de l'or n'a cessé d'augmenter et pourrait atteindre $2000 l'once. Et que cette hausse est due à la pandémie coronavirus. J'aimerais savoir, quel est le rapport entre le coût de l'or et la pandémie coronavirus?
Alors Bruno Faure du service économie est avec nous pour répondre à cette question. Bonjour Bruno.
Bonjour à notre auditeur et bonjour à vous.
Alors c'est vrai que c'est un record qui a été battu mardi, record qui datait de septembre 2011 si j'ai bien regardé. L'once valait à l'époque $1933, là on est passé à 1941. Ce sont nos confrères du Monde qui disent jamais l'or n'a valu autant d'argent. Est-ce que c'est vraiment un effet du coronavirus?
Alors ce qui est vrai, ce qui est sûr, c'est que dans ce contexte, et ça n'a échappé à personne qui est inédit, qui est incertain, l'inquiétude a gagné les esprits dans les marchés financiers avec une reprise de l'activité économique qui est assez ralentie, qui est très inégale sur la planète, notamment dans les zones qui sont les plus touchées par le virus. Les actions en bourse sont très dépendantes de l'évolution de la situation sanitaire, les entreprises cotées en bourse. Et c'est pour ça que l'or joue ce qu'on appelle un rôle de valeur refuge. C'est un phénomène qu'on a déjà pu observer assez récemment dans l'histoire, notamment au moment où vous vous en souvenez de la crise financière en 2008. Aujourd'hui, l'évolution de la valeur de l'or est particulièrement spectaculaire. Elle a progressé de 27% depuis le mois de janvier. Cette hausse du cours de l'or est, il faut le dire, un indicateur assez alarmant quant à la santé de l'économie mondiale, comme en 2008.
Eddy Divin, vous aviez une autre question pour Bruno Faure, on vous écoute.
Qu'est-ce qui rend l'or si attrayant pour les investisseurs?
Alors justement du fait de cette valeur refuge, pour les investisseurs, c'est une façon de se protéger des aléas des marchés financiers, de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier, comme on dit, histoire de minimiser les risques ou d'éventuelles pertes. Il y a des gens qui ont beaucoup perdu d'argent ces derniers mois sur les marchés financiers. Pour autant, cette augmentation du cours de l'or ne date pas de la crise sanitaire. La valeur de l'or progresse depuis l'an dernier, notamment depuis les tensions géopolitiques entre les États-Unis et la Chine, des tensions qui déstabilisent les marchés, qui font planer une menace, celle d'une baisse des échanges commerciaux entre les deux grandes puissances, mais aussi au niveau mondial. Et c'est un phénomène que l'on peut aussi, cet intérêt pour l'or, que l'on peut également observer du côté des particuliers dans les bureaux de change. Eh bien, l'activité explose ces dernières semaines. Les particuliers font de moins en moins confiance à leurs banques pour l'épargne, acheter des lingots d'or. C'est d'autant plus sécurisant.
Voilà, dès qu'il y a inquiétude géopolitique ou sanitaire, l'or sert de valeur refuge. Je vais me faire le relais de la dernière question d'Eddy Divin. Pourquoi, lorsque le dollar baisse, le prix de l'or augmente? Vous avez 30 secondes.
Alors, très rapidement, l'or est coté en dollars sur les marchés, mais en ce moment, le billet vert est particulièrement faible par rapport aux autres devises, par exemple l'euro, mais les autres monnaies aussi sur la planète. Donc, l'or, quand on a une autre devise, quand on utilise une autre devise, l'or est moins cher à acheter par rapport au dollar, et ça ne fait qu'encourager les investisseurs à miser sur ce métal devenu vraiment précieux.
Eddy Divin, est-ce que vous avez eu des réponses à vos interrogations sur la hausse du cours de l'or?
En tout cas, c'est parfait. Je remercie à Bruno Faure et à vous.
Eh bien, bonne journée à vous à Kinshasa, Eddie Divin. Dans 10 minutes, après le journal sur RFI, on va débattre ensemble de la Côte d'Ivoire. La présidentielle d'octobre va-t-elle voir s'affronter les mêmes acteurs qu'en 2010? Pourquoi la classe politique ne parvient-elle pas à faire émerger la relève en son sein? Vous êtes déjà nombreux à vous exprimer sur le sujet sur notre page Facebook et au standard 339 693 693 70. Eh bien, on en reparle. Le débat sera ouvert tout de suite après le journal.